Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Et oui, il est 6h avant minuit, nous sommes le lundi 17 mars 2025 et vous écoutez l'émission d'actualité locale de Syllab. Quelle bonne idée! Syllab vous propose deux nouveaux jeux concours dès aujourd'hui, alors prenez note. On vous offre une place pour Canine le vendredi 4 avril à l'UBU, une soirée bass break et IDM à la programmation sélectionnée par Suichefou, Hassan Abou Alam, Small Crab et Random Copy se succéderont toute la nuit. Si vous n'êtes pas tiré au sort pour la soirée, peut-être gagnerez-vous un CD ou un vinyle du nouvel album de Suichefou. Pour cela, un mot de passe, Parapente, en référence bien sûr à notre partenaire, la maison de disques rennaise qui vous offre ses lots. Et puis le deuxième concours du moment, il concerne le spectacle Par d'autres voix d'Ambra Senatore. Ça se passe le jeudi 3 avril à 20h au Triangle. Quelques mots sur ce spectacle, en croisant danse et voix, la chorégraphe se laisse traverser par des récits de femmes en collaboration avec le compositeur Jonathan Selman. Selon la critique, il s'agit d'une étincelle prête à embraser non le feu d'une révolte, mais d'une solidarité sororale. C'est bien pour ça que le mot de passe pour jouer et gagner une place, c'est feu. Tout de suite, le flash de Syrienne.
Exiler de force les Gazaouis en Afrique. Ce projet vous paraît délirant ? Eh bien pas pour Israël et les États-Unis. En effet, selon l'agence de presse américaine Associated Press, les deux administrations ont approché des responsables du Soudan, de la Somalie et du Somaliland. Et ce, afin d'imaginer donc ces pays comme destination d'exil pour ces 2 millions de Palestiniennes et Palestiniens. Une idée s'ancrant dans le plan d'après-cessez-le-feu de Donald Trump, visant notamment à transformer la bande de Gaza en, je cite, « Riviera du Moyen-Orient ». Et d'en prendre le contrôle. Le Soudan et la Somalie ont refusé cette proposition, et selon l'agence Reuters, le Somaliland a quant à lui nié tout contact avec Washington. Plus rien ne sera jamais comme avant. La chape de plomb qui pesait sur la Serbie a été brisée. C'est ce qu'a témoigné samedi à Mediapart un manifestant lors de la mobilisation contre le pouvoir en place à Belgrade. La plus grande de l'histoire serbe, avec entre 275 000 et 375 000 personnes, selon le décompte d'un institut indépendant, tandis que la police n'en a vu, elle, que 107 000. Des personnes venues de partout dans le pays, à pied ou à vélo, avec un mot d'ordre, la corruption tue. Un slogan faisant référence à la tragédie survenue à la gare de Novi Sad en novembre dernier, lorsque l'auvent en béton s'est effondré malgré des rénovations récentes du bâtiment. 15 personnes avaient perdu la vie dans cet accident. Au samedi soir de la mobilisation, le président Vučić s'est adressé à la nation, reconnaissant l'ampleur de la mobilisation, mais ne faisant aucune annonce concrète. Et ce, alors que le Parlement n'a toujours pas accepté la démission présentée le 28 janvier par le Premier ministre Milos Vučević. Les étudiants et étudiantes ont signifié par la suite que leur détermination restait, elle, intacte. À voir comment la situation évolue dans les prochains jours. Retour 5 ans plus tôt, nous étions un mardi 17 mars 2020, et partout aux infos françaises, l'annonce d'Emmanuel Macron retentissait dans nos oreilles. À cause de la pandémie du Covid-19, nous allions vivre notre premier confinement.
On l'a tous vécu ici, un virus qui a parcouru les 5 continents et qui est venu s'incruster chez nous. Aujourd'hui, 5 ans après, les effets de la pandémie du coronavirus et des 3 confinements ont marqué notre corps comme notre tête. Et le milieu médical l'a bien remarqué. Les premières victimes dans leur viseur, ce sont les bébés Covid.
Des bébés Covid, Kezako.
Oui, les bébés Covid. C'est le nom donné aux enfants nés peu avant ou pendant la période des confinements. Des collègues me disaient « On voit bien que ce sont des enfants Covid parce qu'ils n'ont pas les mêmes attitudes de la vie en collectivité », rapporte Ghislaine David, la porte-parole de la FSUSNUIPP, le premier syndicat des enseignants du primaire à France Info. Elle continue « En rassurant tout de même, ces légères différences de comportement ne semblent pas impacter les bébés Covid au sein de leur scolarité ». À vrai dire, ceux chez qui les effets post-Covid sont les plus flagrants et significatifs, ce sont chez les jeunes étudiants et étudiantes. Principalement celles et ceux arrivant dans la vie étudiante et active au même moment que la fameuse annonce du confinement. À France Info, Audrey, étudiante de 22 ans actuellement, témoigne qu'elle a développé lors du Covid une phobie de la foule. Et il est encore difficile pour elle de participer aux sorties étudiantes. Similaire chez Hugo, de la même génération. Lui a été dégoûté du numérique, des cours en Zoom, mais aussi des écrans en général. Il rapporte qu'il a du mal à communiquer avec ses proches par message. Cela lui procure une pression, une charge mentale supplémentaire sur les épaules constamment. Oui, car chez la plupart des jeunes, cette charge reste constante et les dernières études françaises réalisées sur le sujet en témoignent. Il y a une détérioration de la santé mentale des étudiants et nous ne sommes pas revenus aux chiffres d'avant-épidémie de Covid, explique Mélissa Macali, chargée de recherche INSERM en santé publique à France Info. Bilan de cette étude réalisée l'année dernière par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, en collaboration avec l'Université de Bordeaux. Plus de 40% des interrogés présentent des symptômes dépressifs, modérés à sévères, contre 26% avant la pandémie. À actu.fr, aujourd'hui, des psychologues de la région parisienne racontent des récits similaires. Soizic Lehallet et Héloïse Carrette ont fait face à des adolescents devenus plus angoissés, face à la mort mais aussi aux microbes et à autrui. Pour mieux comprendre les conséquences de la période post-Covid sur les jeunes, une nouvelle étude nommée Mentalo est en cours auprès des 11 à 24 ans. Depuis mai dernier, plus de 11 000 jeunes ont participé au projet en répondant à un questionnaire en ligne. Karine Chevreul, la directrice de l'étude, explique à Ouest France que des résultats significatifs sont déjà observables. Par exemple, comme pour le cas d'Hugo, la visualisation d'écran au quotidien a augmenté depuis la pandémie. Donnant principalement à voir des contenus créés par des influenceurs et influenceuses, la pratique du scroll aurait un effet direct sur la vision négative que les jeunes ont de leur propre vie. Selon la directrice de l'étude, pour l'instant, ce sont elles et eux qui présentent le mental le plus dégradé.
Et en plus de l'étude, une application avec Mentalo appelée Mental Plus serait en préparation selon Ouest France. Elle aura pour but d'aider chacune et chacun à décaler ses propres points forts et de vulnérabilité mentale et proposera des façons pour y faire face. La retraite à 70 ans, à 62 ans, pardon,
tu vas un peu vite en besogne.
Non, à 62 ans, pardon, et bah c'est définitivement non. Hier, dans une interview accordée à France Inter et France Info, le Premier ministre François Bayrou a simplement répondu non à la question. Et ce, alors que depuis février, les partenaires sociaux étaient réunis en conclave afin de négocier la réforme des retraites. Texte adopté par 49.3 par le gouvernement d'Elisabeth Borne, repoussant la retraite à 64 ans. Un conclave dont la fin était prévue le 28 mai de cette année. De quoi provoquer la colère des opposants politiques, un foutage de gueule, selon Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Du côté du RN, c'est le député du Nord, Sébastien Chenu, qui a réagi. Questionné pour savoir si cela pouvait être un motif de censure, le député d'extrême droite a assuré que ce serait un élément à mettre dans le débat. Les syndicats mobilisés dans ces négociations ont bien évidemment aussi manifesté leur énervement. C'est scandaleux. Les concertations ont été rouvertes sur l'idée qu'il n'y avait pas de totem ni de tabou. Donc on pouvait discuter de tout. Et là maintenant, ils referment la porte complètement. C'est totalement une trahison de la parole donnée aux organisations syndicales, dont la nôtre, et aux parlementaires. A commenté Denis Gravouille, négociateur de la CGT sur les retraites à l'AFP. Champion, ce samedi, le 15 de France a été sacré champion du tournoi des 6 nations après sa victoire 35 à 16 face à l'Écosse. Bravo en effet. Une victoire leur ayant permis de se hisser un tout petit point au-dessus de l'Angleterre au classement. Un succès réalisé sans même la star et capitaine de l'équipe française Antoine Dupont blessé au genou. Bref, de quoi balayer l'échec de la Coupe du Monde 2023 et peut-être envisager un sacre lors de celle d'Australie en 2027. Et en Ille-et-Vilaine aussi, on a un champion. C'est Pierre-Louis Dupré, formateur en éducation aux médias et à l'information à la SCOL, un studio de formation dédié au métier de la radio et du podcast à Guichen. Le professeur a donc remporté le prix EMI 2025, catégorie association, au cours des assises du journalisme de Tours. L'occasion de rappeler l'importance de l'éducation aux médias. Dédicace Emma, si tu nous écoutes.
Yes.
Notre formatrice à nous. La semaine dernière, il est... Et elle était au Japon. Cette semaine, les Pécroutes sont en voyage aux
États-Unis.
USA.
US of Trump.
Notre famille de Bretons et Bretonnes en voyage nous a donc envoyé quelques nouvelles depuis leur dernière étape. Non, étape. On écoute le papa Emmanuel.
On écoute les topes, là.
The dad.
Après le Japon, atterrissage à Los Angeles et on en a profité pour rester quelques jours. Et globalement, avis mitigé, parce que pour la première fois de notre voyage, on s'est senti mal à l'aise. Hein, que ce soit dans le métro ou dans la rue, on a senti quand même les difficultés d'une partie de la population. Et pour le coup, c'est pas très agréable. Et puis d'un autre côté, on a des quartiers luxueux, où même des rues sont parfumées. On retrouve toutes les grandes marques de luxe, des voitures Ferrari, Porsche et tout ce qu'on veut. Assez impressionnant ce contraste entre les deux parties. Heureusement, on a trouvé un endroit qu'on va appeler un lieu intermédiaire, une plage qu'on appelle Venice Beach. C'est vraiment sympa parce qu'il y a des petits restos, on peut se baigner, il y a des terrains de tennis, il y a du skate, il y a de la danse sur roller, il y a du basket, il y a tout ce qu'il faut. Et tout ça, bien entendu, rempli avec de la musique bien forte, bien US, principalement du rap, ce qui donne une ambiance relativement agréable.
Prochaine destination, cette fois plus au sud pour les pécroutes, le Mexique. Quel avenir pour nos ressources métalliques ? Alors que l'on prédit nombre de scénarios de transition énergétique, qu'en est-il pour ces richesses minières enfouies partout sous le globe et dont l'exploitation s'intensifie ? Alors, si ces interrogations vous ont déjà traversé l'esprit ou si le sujet vous turlupine, eh bien la conférence de la mine aux ferrailles, quelle perspective pour les filières métalliques en contexte de ruée minière mondiale, animée par l'ingénieur géologue minier Aurore Stéphan, est là pour vous répondre. Rendez-vous demain à 20h30 à l'auditorium Hubert Curien au Champ Libre ou en direct sur la chaîne YouTube de l'Espace des Sciences.
C'est marrant, on a un message sur le répondeur qui fait un petit peu écho à ta dernière brève, Cyriane, mais il faut rester avec nous jusqu'au bout pour l'entendre. Merci pour ce flash, on passe à l'interview.
6h, minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Les midi,
la radio sauvage.
Minuit.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Pull noir, cheveux bouclés, pantalon vert et sac vert, c'est Jade Bechtel, la chargée de mission Nos Futurs, qui est avec nous.
Bonsoir.
Bonjour. Et aussi des représentantes de l'ESAB, avec Kirsten Jardine à ma gauche, qui avait un manteau très coloré aussi, très beau, qui était représentante du projet de scénographie en partenariat avec aussi le festival Nos Futurs, et Louise, une autre étudiante de l'ESAB, avec aussi beaucoup de violet et de couleurs. Le petit col, je le vois. tout d'abord, est-ce qu'on pourrait présenter un peu le festival ? Qu'est-ce que le festival Nos Futurs ?
Tout à fait. Alors, Nos Futurs, c'est un festival qui vise à laisser la parole aux jeunes du territoire sur des sujets qu'ils ont envie de défendre, de porter, des sujets qui leur tiennent à cœur. Et c'est vraiment à partir de ça qu'on construit la programmation. C'est aussi un festival qui est porté et par une école supérieure, donc Sciences Po Rennes, Les Champs Libres, une institution culturelle, et c'est en partenariat avec le journal Le Monde.
Et vous dites, il y a un slogan « Par les jeunes, pour tout le monde ». Et d'où est venue peut-être l'idée de faire ce festival Nos Futurs par les jeunes ?
Eh bien, c'est assez étonnant la date anniversaire dont vous parliez tout à l'heure du moment Covid. C'est vrai que c'est quand même issu de cette période qui n'a pas été simple pour les jeunes. Et donc ça a été une réflexion, je parlais des Champs Libres, de Sciences Po, du Monde, de comment faire ? Comment être en position de ressource et accompagner des jeunes qui ont besoin de s'exprimer, qui n'ont pas assez la place pour s'exprimer, qui ont un manque de représentation dans le côté médiatique, politique et autres. Et donc, comment, à l'échelle d'un territoire, on peut essayer d'apporter un petit peu une pierre sur, en tout cas, la parole et l'écoute aussi.
Et donc, je crois que c'est la 4e édition cette année. Et donc maintenant, c'est plutôt bien ancré dans la vie rennaise.
On espère.
Il y a pas mal aussi de partenariats, par exemple, même avec l'affiche qui a été faite en partenariat avec les Tombées de la Nuit, par exemple.
Oui, je peux en parler. C'est vrai qu'en novembre, on a fait un hackathon. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce que c'est qu'un hackathon, mais c'est un défi qui est lancé à plusieurs personnes pendant un nombre de jours assez restreint. Et tout le monde met ses compétences au service d'une question. Ça vient à la base du milieu des hackers, puisque c'est pour ça que ça s'appelle hackathon. Donc hacker et marathon. Voilà, c'est un peu ça la contraction. Et donc on a fait un hackathon à l'Hôtel Pasteur en novembre avec pas mal d'étudiants d'écoles d'art justement, dont l'école des Beaux-Arts, le DNMA d'Abrecchini, l'école Lisa et des personnes qui sont concernées par le handicap pour essayer de se dire comment notre communication elle peut être davantage accessible parce qu'en fait quand on crée une affiche, on ne pense pas forcément au fait qu'il y a des personnes qui ne voient pas, des personnes qui voient seulement des formes ou qui ont d'autres sens à éveiller, enfin bref. Donc voilà, donc c'était une réflexion autour de ça et c'est comme ça que cette affiche est née.
Pour décrire un peu l'affiche, donc il y a les champs libres.
Oui.
Et après,
Il y a une lumière, qui jaillit. C'est vrai que justement le fait que les champs libres soient présents sur l'affiche, c'est assez nouveau parce que ça a apparu dans le groupe qui a travaillé sur cette affiche parce que une des personnes voyait davantage les formes. Et aussi en termes de lisibilité, de comprendre très simplement une forme qui est identifiable dans la ville, qui est celle du bâtiment des Champs Libres, tout de suite ça permet davantage de pouvoir se dire « Ah ok, je comprends de quoi on va me parler ». C'est aussi pour ça, tu parlais tout à l'heure, je te tutoie, hein. tu parlais de parler jeune pour tout le monde, c'est vrai qu'on a changé aussi ce qu'on raconte, parce qu'avant c'était la parole à la relève, et c'est toujours hein, la parole à la relève, mais en fait parler jeune pour tout le monde c'est quelque chose qu'on disait beaucoup à l'oral, et on se disait mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas pour eux le festival parce qu'ils sont plus âgés, alors que non, au contraire, en fait, c'est de dire c'est des jeunes qui parlent, mais soyez là pour les écouter, parce qu'en fait on va pas y arriver si tout le monde, si toutes les générations n'essaient pas à un moment de dialoguer.
Et donc c'est aussi en partenariat donc avec nos autres invités, l'école européenne supérieure d'art de Bretagne, l'ESSAB. Et comment est-ce que ça s'est fait donc ce partenariat entre les festivals et l'école?
Nous a proposé un sujet en fait, enfin de réaliser la scénographie. C'était pas obligatoire, on a choisi ce cours. On nous a présenté le projet, et voilà, avec un prof référent aussi. Et on s'est lancé dedans, quoi, un peu, à la bulle.
Pour développer sur un peu le processus, comment ça s'est mis en place, ce projet-là, de scénographie?
On nous a présenté les lieux d'abord, on est allé au Champs Libres, on nous a dit un peu ce qui se passait, on nous a aussi... indiquer un peu ce qu'il y avait eu les années d'avant, les sujets qui ont été abordés, et que voilà, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Et après, arriver à l'école, on commence à faire des recherches et, pour répondre au mieux avec une scénographie pour appuyer les discours des personnes qui prennent la parole pendant le festival, quoi.
J'avais vu par exemple dans la description que les adjectifs utilisés pour la scénographie c'est ludique et olfactive.
Oui.
Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous dire par là.
Alors on a voulu faire une scénographie qui soit immersive, donc les gens puissent jouer avec la scénographie. Et on a également un laboratoire olfactif à l'école, donc une artiste qui Julie Fortier qui nous apprend à créer des parfums. Donc j'ai profité de cette traverse-là pour créer des odeurs. Donc certaines cartes ont une odeur qui... En fait, il faut savoir que les cartes sont en lien avec des thématiques contemporaines, enfin des problématiques contemporaines, mais elles sont également en lien avec le tarot. Et donc le parfum devait être un lien entre... Enfin, pour refaire le lien avec tout ça, quoi. Voilà.
Vous parlez de cartes, mais expliquer, ce sera des cartes de tarot. Bon, la description, c'est monumental. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que c'est que ce qui va se passer?
Alors, on a fait un château de cartes dans les Champs Libres et il fait 4 mètres de haut.
Voilà. Monumental.
Et donc, tout autour du château, vous aurez un jeu de cartes de tarot qu'on a créé, donc avec des interactions, des questions, des questionnements sur les problématiques futures et actuelles, quoi. Voilà.
Et ça se passe en continu.
Ça prend des photos, c'est normal. C'est des choses en studio.
J'ai vu que donc cette scénographie, c'est tout le long du festival, pendant les 3 jours.
Oui,
vous êtes installé au Champs Libres, c'est ça?
Oui, tout à fait. On est installé à l'entrée des Champs Libres. Donc on a un château de cartes ici avec les cartes à jouer autour. On est également dans l'auditorium et dans la salle Vie du Citoyen. Et dans les gradins, donc c'est le musée de Bretagne, en fait, à l'étage. On s'est mis un peu partout, on a mis nos cartes partout.
Et donc c'est pour tout le monde, tout âge,
oui, tout à fait. Venir, ouais. Ah oui, tout à fait, c'est vraiment, ouais, on a conçu ce jeu vraiment pour tous les âges, justement pour qu'il y ait une communication entre les différents, enfin les spectateurs, les intervenants, enfin que tout le monde puisse jouer, jouer, discuter ensemble, quoi. Enfin, c'est, en tout cas, c'est l'objectif.
Quand vous dites jouer, est-ce qu'il y aura des tirages donc, de cartes?
Si vous voulez.
Intéressant.
C'est libre.
Il n'y a pas de règles du jeu fixe.
Vraiment non. Okay. On propose un jeu et après chacun est libre de le voilà de d'être plus enfin je sais pas guidé par son odorat, son sens esthétique.
Elles sont disposées sur le billy à l'entrée, c'est le plateforme et voilà chacun peut prendre une carte. Il y a des petites choses écrites derrière, voilà, et ça peut servir à dialoguer avec les autres personnes qui y passent au festival.
Est-ce qu'on peut avoir un exemple ou alors c'est spoilé?
On s'est posé la question, savoir si on prenait les cartes ou pas, on s'est dit non, il faut qu'ils viennent.
Mais ce sera sur des sujets en lien avec la programmation, j'imagine.
Oui, c'était vraiment l'objectif. Ouais.
Oui, vous avez parlé de sujets aussi actuels. En revenant sur la programmation, donc il y a beaucoup d'événements aussi avec des mots différents. Donc il y a des ateliers, des kiosques, des prises de parole, des grandes assemblées. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces différents types d'événements,
les différents formats?
Ouais.
C'est vrai que il y a les grandes assemblées, donc c'est ce qui se passe dans l'auditorium et c'est l'envie de rassembler plein de monde autour de sujets et comme le reste d'ailleurs. Quand même la majorité des formats sont quand même autour de la prise de parole. Ce qui se passe, c'est beaucoup de rencontres, c'est du témoignage. Il y a un autre format qui s'appelle Penser autrement, c'est des rencontres de 45 minutes. Il y en a en continu. Et ça alterne entre deux espaces et c'est vraiment c'est des sujets extrêmement différents. On parle de familles dysfonctionnelles, on parle de la question de la technologie, on parle aussi est-ce que le travail ça a du sens, enfin bref, voilà, quand même des sujets. On parle aussi, vous en avez parlé tout à l'heure de la représentation de la Palestine dans les médias français, enfin voilà, donc c'est quand même très très varié. Les kiosques, c'est des espaces d'échange qui sont dans le hall. C'est proposé de faire des choses avec les gens, de discuter d'un sujet. Il y a par exemple Plantafa qui va faire quelque chose aussi autour de... Le titre, c'est « Nos beaux tours seront la rupture ». Donc c'est essayer de parler des jardins urbains, de parler comment on va se nourrir demain, en fait, tout simplement. Là, je donne un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a un sur les discriminations avec le centre de formation de Prism le vendredi. Enfin bref, c'est assez riche. Mais voilà, il y a ces trois formats, mais après, il y a d'autres choses. Il y a un défilé le dimanche. Il y a aussi une cérémonie d'éloquence le samedi soir avec des collégiens de 3 collèges de Rennes. Voilà, il y a beaucoup de choses.
J'aimerais que c'est beaucoup aussi de sujets dans l'actualité qu'on retrouve maintenant. J'avais noté un peu qu'il y a pas mal de trucs sur l'écologie aussi, pas mal de trucs sur la place des femmes. Je me demandais de ces sujets, c'est aussi les jeunes qui ont choisi tout ça.
Oui, en fait, nous, quand on commence à travailler, enfin, on commence à travailler un petit peu avant pour préparer des choses et tout ça, mais quand on commence à travailler avec les jeunes qui font partie de ce festival, alors jeunes, ça veut tout et rien dire, on est bien conscient de ça, mais à un moment, c'est des personnes qui sont soit dans un parcours scolaire ou pas, qui ont un âge entre, ça varie entre 13 et 28 ans, 30 ans parfois, enfin, bref, ça, c'est au-delà, enfin, bref, ça dépend. Mais oui, c'est ça l'importance du festival. En fait, au début, quand on travaille avec eux, on ne sait pas de quoi on va parler, on ne sait pas à quoi va ressembler le festival. C'est des choses qui se dessinent. En décembre, on commence à se dire « Ah tiens, ça va être ça, ok, dont on va parler. » Mais sinon, en fait, vraiment, c'est pas, je dirais pas que c'est une carte blanche, parce que c'est toujours un peu délicat, les cartes blanches. C'est plus un travail où on co-construit des choses, mais en fait, on part vraiment des préoccupations des personnes qui disent bah, « J'ai envie de porter quelque chose sur le festival. » Et souvent, en fait, c'est quand même des choses qui les concernent eux-mêmes directement au quotidien. Voilà.
J'avais vu, par exemple, un événement qui s'appelle Bibliothèque vivante, femmes engagées, et que j'avais vu que c'était en continu. Est-ce que c'est un...
Alors, c'est le... Donc, ça sera le vendredi après-midi au cinquième... je dis pas de bêtises. Au cinquième étage de la bibliothèque, de 14h à 17h. Et alors, c'est un format très particulier. Oui. En fait, ça vient d'un pays scandinave, je vais pas dire de bêtises, où, en fait, c'est vraiment un format pour essayer de déconstruire des stéréotypes, des préjugés qu'on peut avoir... sur des personnes. Et donc, plutôt que d'emprunter un livre, eh bien, on va à la rencontre d'une personne qui est un livre vivant. Et pour ça, en fait, il faut juste s'inscrire sur des petits créneaux au cinquième étage de la bibliothèque. Et après, on passe une personne face à une autre personne, passe un tête-à-tête pour rencontrer cette personne. C'est très particulier, mais je vous assure que c'est vraiment super. Je l'ai fait aussi déjà. C'est des moments assez qui peuvent être très émouvants, très marquants. Mais c'est aussi une opportunité assez folle de passer un moment un peu suspendu avec une autre personne qui vient témoigner de son vécu et avec qui on peut poser des questions, mais c'est un vrai tête-à-tête. Voilà.
J'avais vu aussi que... j'avais une question sur les intervenants. Et donc, vous parlez, par exemple, là, c'est des personnes qui viennent, des femmes qui viennent et qui s'inscrivent.
Alors, c'est des personnes qui ont été, on va dire, cherchées par les quatre étudiants en conseil d'économie sociale et familiale de l'école d'Ascoria qui ont cherché les personnes pour témoigner. Donc on a une personne qui va raconter son parcours d'exil, une autre personne qui va raconter son engagement dans les quartiers populaires pour les jeunesses, une autre personne qui se définit comme agricultrice paysanne du monde. Enfin, voilà, c'est des parcours assez différents, mais ça révèle des engagements que les personnes avaient envie de mettre en valeur, en tout cas.
Je voulais aussi, bien sûr, rappeler du coup que c'est bientôt.
C'est les dates. Oui, les dates. Je me suis dit, en fait, oui. On l'a jamais dit.
Je me suis dit, bon.
Au fait, c'est vendredi.
Donc oui, c'est vendredi, samedi, dimanche, c'est sur 3 jours.
Oui.
Et c'est bien rempli, en tout cas. Enfin, on n'a parlé qu'une partie de la programmation, on n'avait bien pas le temps de tout rappeler, mais... n'hésitez pas à vous renseigner.
Il y a plein de choses et c'est, qu'est-ce que je voulais dire ? Mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Si, un truc qu'on me demande souvent, oui, c'est, la plupart des choses sont en entrée libre. Venez,
oui.
Pointez-vous et vous aurez souvent de la place, donc soyez les bienvenus et voilà. Et puis il y a plein de choses très très différentes, j'ai pas aussi parlé de ça, mais on a une rencontre sur Britney Spears quand même.
Oui, ça j'ai noté.
Je l'ai entourée de rouge.
Voilà.
Ne pas manquer.
C'est des sujets très intéressants.
Et les baleines. Oh, non, mais il y a plein de choses.
Il y a beaucoup de sujets.
Peut-être un dernier truc que vous avez envie d'aborder.
Non, mais il y en a plein. Allez. Mais en tout cas, juste peut-être. Et si on écoutait les baleines le vendredi, c'est un horaire pas facile. Donc c'est pour ça aussi que j'en parle. C'est 10h à midi. On a des super intervenants. On a Lamia Essem Lali qui est présidente de Sea Shepherd France. On a Olivier Adam qui est un bioacousticien, c'est quand même fou, quelqu'un qui analyse le son des cétacés. Et on a Camille Brunel, un auteur. Et tout ça, ça a été réalisé avec 3 étudiantes et un groupe de lycéens du lycée Théodore Monod du Reux, qui sont vraiment géniaux. Et
oui,
voilà.
Ça a l'air tellement intéressant, mon Dieu. merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Merci.
Merci, on enchaîne avec la chronique.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Et oui, c'est lundi, c'est Chronique Fake News. Cette semaine, à l'occasion des 5 ans du Covid, on revient sur les infox qui ont émaillé cette période d'incertitude avec toi, Eva.
Toujours le Covid, aujourd'hui.
Gros morceau quand même.
Ne pas savoir est parfois plus angoissant que savoir, même si on imagine des scénarios fous. Pointer un responsable du doigt donne un sens. Voilà comment Tristan Mendes France, spécialiste des cultures numériques, expliquait les théories du complot. et des scénarios fous, c'est peu de le dire. Vous souvenez-vous des thèses conspirationnistes qui fleurissaient sur les réseaux sociaux il y a 5 ans, pendant le Covid-19 bien sûr. Il y a même eu un documentaire de propagande pseudo-scientifique, Hold Up, sorti en 2020, qui abordait nombre d'hypothèses. En voici une plutôt bien trouvée. Les ondes de la 5G permettraient la propagation du virus. Dès janvier 2020, les types n'ont pas perdu de temps, un groupe conspirationniste français, dont le petit nom est les moutons enragés, pointe un lien entre l'apparition du virus à Wuhan et le déploiement de la 5G qui venait tout juste de se faire. Un peu plus tard, une autre rumeur est venue renforcer cette fake news. Les confinements serviraient à installer des mâts 5G sur les toits des écoles, surtout aux États-Unis. Après ça, visiblement, c'en est trop pour les complotistes, ou du moins les personnes les croyant. Des actes violents ont suivi, des destructions d'antennes 5G et même des attaques sur les techniciens et techniciennes. À la suite de ces événements, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, parmi d'autres organismes, contestait évidemment ces conspirations, rappelant qu'elles ne s'appuient sur aucun fondement scientifique. Et non, le Covid ne se transmet pas par les ondes de la 5G, mais par voie aérienne, via des gouttelettes respiratoires, des contacts directs ou des objets contaminés. Et il n'y a pas que le virus qui a fait du buzz dans les fake news, mais aussi les confinements qu'il a induits. Et on reparle de 5G, car cette fois, certains internautes racontent que le gouvernement a propagé la 5G à travers le pays par l'intermédiaire des confinements de 2020, puis 3 ans après, en 2023, d'autres expliquent que des prochains confinements vont arriver dus au climat ou encore aux Jeux Olympiques 2024. Donc confinement climatique, confinement olympique, et face aux dernières actualités mondiales, cette fois les internautes écrivent qu'un confinement en cas d'expansion de la guerre en Ukraine aurait lieu. Selon l'article de France Info sur ces fake news, le confinement est devenu un outil pour mieux comprendre le monde, pour certains et certaines, et pour les complotistes, le contrôle qu'induit la mise en place de ces confinements à telle date, pendant ce nombre de jours, appuie leur croyance que le monde est contrôlé par une élite, comme les figures gouvernementales, par exemple, ou l'INSERM, ou l'OMS, les scientifiques. Et on a commencé avec une phrase de Tristan Mendès France à France Info, alors on finira avec une autre de ces phrases, où il conclut que les fake news citées précédemment remplacent une incertitude par une inquiétude.
Oui, merci Eva. Tout ça sans parler des fake news sur les vaccins, des fake news.
Il y en a beaucoup.
Tellement hein, à cette époque. Ben, merci pour ce retour 5 ans après. On a un message sur notre répondeur.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Salut toute l'équipe de Célab. Alors je vous appelle parce que du coup je me posais une question. En ce moment c'est un gros bordel dans le milieu de l'industrie, tout ce qui est du BTT. Et donc du coup je me disais que ça serait peut-être intéressant d'évoquer le sujet dans une de vos émissions. Et étant donné que tout ce qui est métallerie, chaudronnerie, soudure, tout ça... Il y a un gros souci dans ce milieu pour trouver du boulot. Je sais que je suis pas seul de ce milieu à être dans la crise. Et pareil pour la crise qui commence à atteindre même la Suisse, pour donner une idée. Donc du coup, je pense que ce serait intéressant de voir ce sujet-là. Donc je sais pas si ça vous intéresserait. Et en tout cas, voilà, on est nombreux à être sur la touche, comme on dit. Et c'est un gros problème qui atteint, je pense, la France, étant donné qu'on ne sait pas d'où ça vient et qu'on ne sait pas comment va être l'année 2025. Et on est tous en grand souci. Et bien, parce qu'on cherche tous du boulot. Voilà, en tout cas, bravo pour vos émissions. C'est un plaisir de vous écouter. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.
Eh bien, merci pour cette suggestion, cher auditeur.
Cher auditeur.
L'équipe de la rédac en prend bonne note. Hein. Et si vous voulez faire de même et nous proposer des sujets, voire nous faire passer un petit message, eh bien, appelez le 02 30 96 25 35. Merci Timothée pour la technique et à demain.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.